une flamme en moi, réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette flamme d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme noire réchauffe mon cœur. Le lundi, le lundi,
son amour,
le mardi,
je sens sa paix,
mercredi,
est un
bon jour, et jeudi,
je veux
chanter, vendredi,
si je
le dis, et samedi, le dimanche, cette joie vient briller en moi.
Une flamme noire
réchauffe mon cœur, cette flamme noire brûle mes malheurs, je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi. Ton voisin, prie en toi, prie en toi, prie en toi, prie en toi, oh prie en toi, prie en toi, prie en toi, oui, prie. Amen.
Je suis là.
Que ça vous plaise ou non?
Voilà, alors soirée tequila, je sais, mexicaine, c'est peut-être une soirée tequila, non? Je sais pas. Faudra vérifier quand même avec, hein, parce que faut aller doucement avec ça. Voilà, on avait vu les deux études bibliques précédentes, le Dieu d'Abraham d'abord, s'il y en a qui s'en souviennent. Oui, et le suivant c'est le Dieu de... D'Isaac, il y a quelqu'un qui a suivi, vous aurez une image pieuse à la fin. Et le suivant, c'est le Dieu de Jacob, voilà. Pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ces personnages? Ben parce que le Nouveau Testament en parle, parce que Jésus lui-même a souvent parlé de son père en l'appelant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je rappelle que c'était quelquefois, en tout cas principalement, Jésus... A repris ce titre que Dieu lui-même s'est donné dans l'Ancien Testament pour démontrer, pour soutenir le principe de la résurrection. Il a dit, mais quand Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est-ce que Dieu se réfère à des morts? Quel titre peu flatteur ce serait que d'être le Dieu des morts. Et si Dieu dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est que Dieu les considère comme étant vivants. Donc c'était une façon de soutenir l'idée de la résurrection. Ce soir, est-ce que nous sommes vivants ou morts? Oui, bon, après ça dépend comment on parle, hein. La plupart, tous ceux qui bougent, vous avez l'impression d'être vivants quand même. Voilà. Mais l'apôtre Paul dit aussi que nous sommes morts à nous-mêmes. Donc ne bougez plus. Voilà, vous êtes morts à vous-mêmes. Le Dieu de Jacob. Alors, sur Jacob, il y a beaucoup de choses dans... on va juste prendre quelques extraits parce que, évidemment, si on devait examiner toute la vie du grand patriarche Jacob, ben, il nous faudrait faire... ce serait beaucoup trop long. Alors j'ai juste sélectionné... Quelques points. Par exemple, on sait que Jacob avait donc un frère jumeau et qu'ils étaient en compétition avec lui. Et normalement, dans cette époque, le droit d'aînesse, c'est quelque chose qui est excessivement important. C'est, c'est la transmission de la bénédiction, c'est la transmission de la lignée, et en même temps aussi, d'un point de vue matériel, le fils aîné héritait d'une portion double, comme on le voit aussi, ça a été plus tard rendu légal dans la loi de Moïse, dans le Deutéronome. Et donc, c'était quelque chose, mais par-dessus cet intérêt d'héritage matériel, c'est surtout d'abord une transmission de l'autorité, c'est une transmission, c'est quelque chose qui est sacré d'une certaine façon. Et nous allons lire d'abord dans la Genèse, donc au chapitre 25, les versets 29 à 34, ça arrive avant même que j'ai fini. Il est impressionnant le typo à l'ordi là-bas, hein? Vous avez remarqué? J'avais juste dit 25, il était déjà, il savait que c'était le 29, c'est fort, hein? Bon, je lui ai donné le papier avant. Alors, voilà, nous lisons. « Comme Jacob faisait cuire un potage, » ça c'est un passage qui intéresse les dames, « Ésaü revint des champs, accablé de fatigue, » parce que lui c'était surtout un chasseur. Et Ésaü dit à son frère Jacob, « Oh, je t'en prie, laisse-moi manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » Et c'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom de Édom, parce que c'est le nom en hébreu. Jacob lui dit, « Bon, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Écoute, bon, de toute façon, moi, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ?» Et Jacob dit, « Non, non, jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles, il pouvait même rajouter une plaquette de beurre pour le prix. Il mangea et but, puis il se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. J'aime bien quand même revenir sur cette négociation, parce qu'on pourrait avoir l'impression que Ésaü s'est fait vraiment, non seulement s'est fait berner, mais qu'il était un petit peu sot, parce que évidemment échanger un tel bien contre simplement une assiette contre un potage de lentilles, bon, c'est quand même pas payé bien cher. Et je ne crois pas que ce soit ça que le texte dit. Le texte dit que il est revenu des champs, de la forêt. On sait que par ailleurs dans d'autres textes que c'était surtout quelqu'un qui aimait la chasse, qui aimait le gibier. C'était un homme des bois. C'était un grand coureur de campagne. Et alors, quand il est revenu un jour, il devait être bredouille. Et bon, ben comme son frangin faisait une bonne tambouille, il a été comme le renard par l'odeur alléchée, et donc ça lui faisait envie. Mais quand il a dit « Donne-moi son frère », son frère a saisi l'occasion, lui dit « Écoute, d'accord, pas de problème, je te donne une assiette de soupe, mais d'abord négocions sur le droit d'aînesse. » Et je ne pense pas que Ésaü ait donné son droit d'aînesse seulement contre une assiette, c'est seulement qu'avant de lui donner à manger, ils ont fait la négociation. Ils ont d'abord négocié. Tu me le vends pour combien ? Et parce qu'on n'est pas obligé de supposer qu'Ésaü ait été complètement ballot et un peu limité dans son esprit. Mais en tout cas, il a négocié. Alors, avec la tractation ne nous intéresse pas, parce que c'est pas le problème. Le problème, c'est que ce n'est pas quelque chose qui devait se vendre. C'est pour ça que Jacob lui a dit d'abord, jure-le-moi. Et il lui a vendu. Donc, ils ont eu peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il l'a vendu contre des chameaux, des biens, de l'or, on ne sait pas pour combien. Mais en tout cas, ils ont négocié, il lui a vendu. Et une fois que c'était fait, alors il lui a dit, d'accord, maintenant le droit d'aînesse est à toi. Au fait, tiens, tu veux manger, mange tout ce que tu veux, lèche la marmite si tu veux. Mais Ésaü avait méprisé les biens spirituels. Il avait méprisé ce qui vient de Dieu. C'est une leçon qui est grave et qui doit nous amener à à prendre au sérieux ce que Dieu fait. Quand j'étais, avant d'être chrétien, eh bien je fumais. Pas quand je réfléchissais, mais des cigarettes, je veux dire. Et alors, je m'étais mis à fumer les toutes premières, j'étais tout gamin, déjà on était tout petit, hein, dans la campagne, on fumait des... On avait des herbes, je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça, hein, des herbes creuses, je ne sais plus comment on appelait ça. Hein, c'était des espèces de trucs creux comme ça, et on fumait ça. C'est absolument horrible, hein, c'est vraiment... Mais voilà, bon. Alors on fumait des herbes, et puis après, quand j'étais étudiant, alors je roulais, ça faisait bien, ça faisait tendance, hein, j'avais mon manteau en poil de chameau et tout ça, et donc je roulais, ça faisait vachement in. Et puis, je pouvais pas m'arrêter. J'ai essayé une fois ou deux, mais après j'avais les nerfs, hein, c'était terrible. Et puis, quand je me suis converti, un jour j'étais on était avec Brigitte dans une réunion, c'était à Lausanne, une petite réunion de maison. Et puis là, quelqu'un a prié pour moi, et cette personne a dit, mais... Ah oui, je vois que c'était une parole de connaissance. Je vois que tu es fumeur, mais le Seigneur va te débarrasser de ça librement. Bon, moi j'étais content. Je dis, si j'ai pas à me bagarrer, j'ai mon temps. Hein. Et quelques temps après, à ce moment-là, j'étais au service militaire. Il faut savoir qu'à l'époque, au service militaire, on nous donnait les cigarettes. On nous les donnait. Je crois qu'à l'époque, on donnait 5 francs pour 15 paquets. Vous voyez, pour rendre toute la France intoxiquée, là c'était bon. Hein, bon, il faut dire qu'après c'est l'État qui les vendait. Hein, donc tout le monde sait comment ça va. Et alors, donc j'étais là un jour et un matin, tout d'un coup, je me dis, tiens, je me suis rappelé, c'était peut-être un mois après, je me suis rappelé de cette parole de connaissance. Je me dis, tiens, et si c'était aujourd'hui? Alors la cigarette que j'étais en train de fumer, je l'ai éteinte, j'ai mis le paquet à la poubelle, je suis remonté dans ma chambre, j'ai mis les quelques paquets d'avance que j'avais, 4-5, je ne sais pas, j'ai tout mis à la poubelle. Et puis j'ai attendu pour voir ce qui se passerait. Et ce qui se passait, c'est que je n'avais pas envie. Et d'habitude, personne ne vous file une cigarette hein, en temps réel. Mais là, quand vous décidez d'arrêter, tout le monde veut vous faire fumer. Hein, et à tout moment, je disais, non, je ne fume plus. Tiens, mais prends-en une. Et j'avais même pas à résister, ça se faisait tout seul comme ça. Formidable. À quelques temps de là, eh bien, nous sommes mariés avec Brigitte, le même jour, tous les deux. Ouais. Et donc, comme c'était un grand jour, et qu'autour de nous, voilà, il y a des tas de gens qui fumaient, et puis quelqu'un a sorti des petits cigares, des longs cigares hollandais, ceux que j'aimais bien. Alors j'ai dit, oh ben puisque je suis libre. Ah oui, quand on est libre, hein, on peut faire les choses librement. Donc j'ai dit, ben j'en fume un comme ça. Alors j'ai fumé un. Et le lendemain, toujours librement, j'ai fumé une cigarette. Et puis le dimanche suivant, puisque j'étais libre, j'en ai fumé une autre. Et après, de temps en temps, je fumais une cigarette librement. Et un soir où j'étais de garde à l'armée et où je gardais, un hangar vide, il me semble. Et... Ça ne me motivait pas tellement. Il faisait froid et à 4 heures du matin, la motivation était assez faible. Alors, du coup, j'ai commencé à taper des cigarettes par-ci, par-là. Et tout d'un coup, j'ai pris conscience que j'étais en train de me remettre à fumer. J'ai dit, mais Jean-Marie, ça ne va pas dans ta tête, tu es malade ou comment? Non, je dis donc, non, allez, j'arrête. Mais maintenant, pour arrêter, eh bien, c'était dur. Et j'en ai bavé, c'était dur. Après j'ai prié, je dis, Seigneur, tu vois, délivre-moi. Dieu m'a dit, je ne dis pas que Dieu m'a dit comme si j'avais entendu le message, hein, comme une voix au téléphone, mais j'ai bien compris en tout cas ce que ça voulait dire. Dieu m'a dit, écoute, moi je t'ai délivré sans que tu fasses d'effort, tu n'as pas pris, tu n'as pas gardé, maintenant tu te débrouilles. Et j'ai dû me battre avec ça, c'était difficile. Pendant des mois, c'était difficile. Quelqu'un allumait une cigarette à 500 mètres. Et j'ai jamais trouvé que ça sentait mauvais. Hein. Oh, c'était difficile. Des fois, quelqu'un m'en donnait une, je l'allumais. À peine j'avais tiré deux taffes, je disais, mais non. Alors, non, je refuse. Mais c'était vraiment difficile. Et vous voyez, les cadeaux de Dieu sont des cadeaux importants. Il faut que nous prenions ce que Dieu nous donne. Il ne faut pas que nous méprisions le don de Dieu. Il ne faut pas que nous méprisions tout ce que Dieu a fait pour nous. L'œuvre de Dieu est une œuvre extraordinaire. Tous les aspects de ce que Dieu fait pour nous, c'est incommensurable. On ne peut pas décrire la grandeur de toutes les bonnes choses que Dieu a prévues pour nous, de tous les points, comment il agit pour nous faire du bien. Alors nous devons prendre toutes ces choses avec reconnaissance, avec respect, avec déférence, et nous mettre dans notre comportement un sérieux avec l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous. Ésaü ne comprenait pas ces choses. Ésaü voyait cette opportunité, ce droit même qu'il avait, eh bien ce droit d'aînesse, eh bien il l'a méprisé. Il a dit, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Quand il dit, je m'en vais mourir, je ne pense pas qu'il se sentait en train de, littéralement en train de mourir comme s'il allait mourir de faim. D'abord, on ne meurt pas de faim comme ça en une journée, hein, il faut... Si un jour vous voulez vraiment mourir de faim, vous prenez-y longtemps à l'avance. Hein. Non, c'est vrai, c'est long. Hein. C'est vraiment long. Hein. Alors, il n'était pas en train de mourir là. De plus, il y avait des tas de gens ici. Sa famille était là, son père était là, sa mère. Il y a bien quelqu'un qui lui aurait donné une biscotte. Non, il y avait. Il n'était pas en train de... Mais, comme on dit des fois, oh là, je meurs de faim. Et puis on survit quand même. Mais c'est surtout qu'il était... Il a dit, de toute façon, on meurt tous un jour. Un jour, je mourrai quand je serai mort. Ça me servira à quoi, ça me servira à quoi, une fois que je serai mort, ce droit d'aînesse. Lui, il ne voyait que l'importance des choses matérielles. Il était matérialiste. Les données spirituelles, les choses importantes, les choses de l'au-delà, les choses spirituelles, les choses du monde spirituel, ça n'avait pas de prise dans sa réflexion. Lui, il croyait en ce qu'il avait. Comme les gens autour de nous disent souvent, des fois on parle de Dieu, des gens disent « Oh, moi je crois ce que je vois !» Ou certains disent « Mais Dieu, il est là, c'est mon portefeuille !» Ah ben, il va te décevoir, ton Dieu, hein. Mais, alors, bien sûr, Jacob avait pas raison de le truander comme ça. Hein. Jacob, c'est un petit escroc quand même. Parce que lui, il a profité de ce moment de faiblesse émotionnelle dans lequel était son frère. Hein. Il a dit, écoute, allez, puisque tu n'es pas bien, d'abord, je te propose un petit négoce. On fait un deal. Hein? Allez. Combien? Il te faut combien? Ils ont négocié. Jacob a voulu, lui, la faute de Jacob, c'est que Jacob, lui, c'était un type un peu rusé. C'est un gars qui, bien sûr, il croyait aux promesses de Dieu, mais il se disait, si je donne à Dieu un petit coup de main, ça va aller plus vite. Il y a des gens qui aiment donner à Dieu des petits coups de main. Hein, il m'a promis, mais... une bénédiction. Bien sûr, il y a la justice de Dieu, mais déjà, je vais m'occuper un petit peu de ceux qui sont autour de moi. Hein? Et puisque Dieu va les condamner un jour, des fois, je vais prendre de l'avance. Et vous avez des gens comme ça qui ne sont pas sérieux avec l'autorité, la direction du plan de Dieu dans la vie. Si on croit que c'est Dieu qui dirige notre vie, si on croit que c'est Dieu qui a autorité dans notre vie, pourquoi faire comme si on avait peur que Dieu soit assez faible pour ne pas être capable de le réaliser? Si Dieu est capable de réaliser son plan, entrons simplement dans son plan, mais laissons-le faire. Vous avez des gens qui cherchent la volonté de Dieu, mais en fait ils la cherchent en marchant devant. Hein? Ils courent, ils décident un truc, après ils disent à Dieu, on y va. Hein? Il y a des gens, ils font des trucs, ils décident, après ils disent à Dieu, Seigneur, bénis l'œuvre. Ben Dieu dit, mais si c'est la tienne, ça. Ben Dieu dit, mais bénis ton œuvre. Bénis-la, toi, puisque tu décides. Il nous faut marcher dans l'empreinte des pas de Jésus qui marche devant nous. Ok? Suivre. Quand Jésus dit toujours aux disciples qu'il appelle, il leur dit toujours, suis-moi. Il ne lui dit pas, marche devant. Allez-y, marchez devant. Allez, venez les gars, marchez devant. Non, c'est lui qui marche devant. Il nous faut apprendre à marcher. Et ça, c'est la grande faute de Jacob. C'est qu'au lieu de laisser Dieu accomplir souverainement son œuvre, il pensait qu'il allait la faire à sa place. Alors bien sûr, sur le coup, il a cru qu'il avait tout gagné. Il a truandé son frère, truandé d'une façon légale, hein, mais les meilleurs truands sont ceux qui restent légaux. Hein, et donc il a réussi à obtenir ce droit d'aînesse. Mais est-ce qu'il avait gagné? Maintenant, ce que Jacob a récolté, c'est qu'il était avec son frère dans une inimitié. C'est qu'ils étaient maintenant dans un conflit, dans une concurrence, dans une guerre qui allait toujours s'intensifier et qui, pour lui, serait quelque chose d'absolument destructeur. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, les versets 16-17, rappellent cette petite histoire. Veillons à ce qu'il n'y ait parmi nous, dit l'auteur, ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicitât avec larmes. Mais son repentir ne put avoir aucun effet. Il a considéré comme profane les choses de Dieu. Pour un mai, littéralement en grec, c'est pour un seul mai. C'est pour souligner que c'est pour très peu, c'est pour peu de choses, il a renoncé à ce qui était spirituel. C'est d'ailleurs intéressant de voir que c'est la même expression que Ésaü emploie quand il a fait ce mauvais marché. Il dit qu'il se voyait mourir, de toute façon un jour je vais mourir, alors à quoi ça sert? Et son père dira la même chose, Isaac, hein, quand Isaac transférera la mauvaise bénédiction, enfin se trompera de faire, dans l'ordre de ses fils, il dira, je vois que je vais mourir. En fait, il est mort 43 ans plus tard. Hein. Donc, voilà deux, on dirait, mais ils avaient tous envie de mourir dans cette famille. Mais nous ne voulons pas mourir. Nous croyons à la vie. Nous croyons à ce que Dieu fait pour nous. Est-ce que tu crois à la vie? Est-ce que tu crois à la vie que Dieu a mis en toi? Est-ce que tu crois que Dieu t'a donné une vie pour quelque chose? On n'est pas chrétien pour juste attendre le moment où on ira au ciel. On ne peut pas faire comme Isaac et puis se dire 43 ans à l'avance, où je sens que je vais bientôt mourir. Oui, bah, ça c'est sûr. Hein. Vous savez qu'on est tous en train de mourir. Hein. Mais depuis le jour où on est né, on vieillit. Déjà, le fœtus, il vieillit déjà. Mais ce n'est pas une raison pour renoncer à vivre. Hein. On va vivre et servir le Seigneur. Je crois qu'il y a ce soir particulièrement quelqu'un qui a besoin de croire à sa propre vie. Je ne sais pas, c'est une idée un peu bizarre, mais quelqu'un qui doit admettre ce soir qu'il est vivant. Voilà. Il faut que tu admettes que tu es vivant. Et que vivant, ça veut dire vivre, agir, prévoir, projeter et réaliser. N'attends pas simplement que Dieu vienne te cueillir. Tu es vivant pour vivre. Amen. Un deuxième point que j'ai sélectionné, c'est donc cette fameuse histoire où Jacob a trompé son père. Hein. Alors on saute un petit peu plus loin. On sait que le père de Jacob et Ésaü, Isaac, il se croyait mourant et il était aveugle. Donc un jour, je crois qu'on avait parlé de ça de l'autre fois, mais je veux juste rappeler un petit point à propos de Jacob. Donc Isaac a dit à son fils, Ésaü, lui a dit, ramène-moi, fais-moi, va chercher dans la forêt du gibier, fais-moi un bon plat et après je te donnerai la bénédiction qui correspond à celle du fils aîné. Donc Isaac est parti, mais entre-temps, Jacob s'est déguisé et a pris sa place en profitant que son père était aveugle. Et il a réussi à le tromper. Vous voyez, Jacob, c'est un manipulateur. C'est un trompeur. C'est quelqu'un qui n'est pas intègre dans son cœur. C'était quelqu'un de paisible. C'était quelqu'un de tranquille. C'est quelqu'un qui n'attirait pas l'attention. Mais dans sa tête, ça allait vite. Et dans sa tête, il se rendait compte, il savait comment tromper les gens, il savait comment profiter, il savait comment les dominer, comment tirer un intérêt. C'est toujours terrible quand on croit avoir un ami et puis que tout d'un coup, on est obligé de se rendre compte que, en fait d'amitié, on avait quelqu'un qui avait un intérêt dans sa relation avec nous. Ça, c'est une trahison. Hein, c'est quelque chose qui est toujours grave. Ça laisse des blessures profondes. Les gens qui se sont sentis trahis par un ami, à tort ou à raison, mais en tout cas, c'est toujours quelque chose qui est grave. Mais Jacob n'avait pas peur de ça. Il n'a pas eu peur, je ne sais pas comment il a fait, pour escroquer son propre papa. Et en prenant quelque part Dieu à témoin. Hein, quand son père lui dit, mais comment ça se fait que tu as déjà trouvé du gibier? Il a dit, oh, mais c'est que Dieu l'a fait venir vers moi. Dis donc. Oh, ça c'est quand même grave. Non seulement il était aussi menteur, mais il essayait de se mettre encore Dieu complice avec lui de ses mensonges. Vous croyez que Dieu est d'accord? Ah non, non. Et finalement, donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a bien eu la bénédiction. Mais encore une fois, les mauvaises méthodes n'attirent que de mauvais résultats. Vous savez, quand on se comporte avec des mauvaises motivations, des mauvaises façons d'être avec les gens, même quand on croit gagner, on a toujours perdu. Toujours on a perdu. Toujours, il faut attendre que la facture arrive. Et quelquefois, plus l'escroquerie était grande, plus la trahison était profonde, plus le temps de la facture met du temps à venir. Mais Dieu, il s'en fiche, il est éternel. Hein? Lui, il a tout son temps. Mais quand la facture arrive, alors elle est lourde. Et Jacob a dû se rendre compte que la facture arrivait. C'est que maintenant, son frère était plein de haine envers lui. Mais de la haine. Tout ce qui retenait Ésaü de tuer son frère, c'était seulement, il a dit, seulement pas pendant le vivant du papa. Mais quand le papa est mort, le lendemain où on finit la cérémonie, enfin, je ne sais pas s'il l'a dit comme ça, mais je l'imagine. Hein? Et alors, et quand Jacob a entendu ça, parce que lui, c'était un homme tranquille, hein? Lui, il n'avait pas envie du tout de se colter avec son frère, alors il a dû prendre la route, il a taillé, et maintenant, il devenait un pauvre voyageur, itinérant, tout seul, il est parti avec son petit baluchon, son bâton, il n'avait pas un sou, il était tout seul, il a perdu d'un seul coup ses parents, sa famille, tout ça. Il partait dans un endroit éloigné, il pensait qu'il reviendrait bientôt, il est revenu 20 ans plus tard, c'était avec sa maman qu'il avait combiné tout ça, quand il est revenu, elle était décédée. C'est un fiasco, c'est bête, mais comme c'est bête d'employer des moyens comme ça pour se détruire la vie, pour détruire celle des autres aussi, et pour faire du mal à tout le monde, pour se mettre dans des embrouilles jusque-là. Pourquoi ne pas comprendre ce que Dieu dit? Pourquoi ne pas être plutôt juste? Pourquoi ne pas être intègre et faire les choses qui plaisent à Dieu? On peut lire chapitre 29, 15 à 30, donc... Il est arrivé, Jacob est arrivé chez son oncle, et puis maintenant il a trouvé, son oncle lui a dit, Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, est-ce que tu me servirais pour rien? Non, dis-moi, qu'est-ce que tu veux, comment je te paye, quel est ton salaire? Or Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. Alors, la traduction est un peu difficile à savoir ce que veut dire les yeux délicats. Quelques-uns pensent que ben, elle était un peu voilà, qu'elle voyait pas trop bien, mais ça peut, comme c'est un pluriel en hébreu, ça peut être un pluriel de quantité. Ça veut dire peut-être que les yeux c'est l'apparence. Hein. Donc elle avait une apparence un peu chétive, maladive. Elle était voilà. Une personne un peu dans sa santé, sans doute diminuée, pas seulement les yeux peut-être, hein. Mais Rachel, elle, voyez, c'est la comparaison, elle, à côté, elle était belle de taille et belle de figure. Voilà, c'était un canon. Jacob aimait Rachel. Et il dit à son oncle, il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel. C'est lui qui a fixé lui-même le prix. Et même pour l'époque, eh ben c'était cher payé. Hein. En tout cas, un truc que Rachel a su qui tenait à elle. Hein. Parce que pour que lui, de lui-même, il mette un prix aussi haut, elle a dit, oula, dis donc, je suis quelqu'un, moi. Et Laban dit, ben, j'aime mieux te la donner à toi qu'à quelqu'un d'autre. Hein. Reste chez moi. Marché conclu. Ainsi, Jacob servit 7 années pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Hé, mesdames. Si le mari que vous avez épousé avait dû travailler 7 ans pour presque rien pour vous avoir, vous sauriez qui tenait à vous, hein, hein? Je trouve que c'est vraiment une preuve, c'est une preuve d'attachement vraiment, vraiment extraordinaire. Ah, il y avait encore une petite suite après? Ensuite, Jacob dit à Laban, quand les 7 ans ont été finis, il lui dit, bah, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu, il a organisé une grande fête. Le soir, il prit Léa, donc l'autre, hein, vous avez suivi. Il a pris l'autre, celle qui était l'aînée, qui était un peu, tout petit peu moins bien. Hein? Il prit Léa, sa fille aînée, et il l'amena vers Jacob, qui s'approcha d'elle. Bon, il s'est approché tout près, je veux dire. Hein? Et Laban donna, bon, etc., pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que ben, la lumière du jour étant revenue, parce qu'il y avait eu une coupure d'électricité, alors voilà qu'il s'est aperçu que c'était Léa. Non, attendez, moi je me dis, ça doit quand même faire... Attends, ça fait un choc quand même. Ça fait un choc. Le gars, il se réveille le lendemain de la nuit de noces et il s'aperçoit qu'en fait, il a épousé quelqu'un d'autre que celle qu'il avait et qu'il croyait. Surtout qu'il avait quand même bossé pour pas grand-chose pendant 7 ans pour elle. Alors quand on dit qu'il était... Ah, on a enlevé le texte, pardon, voilà. Alors quand il a dit à la banque, qu'est-ce que tu m'as fait? Je pense que c'est raccourci, hein. Je crois que ça, c'est juste un raccourci. C'est vraiment la substantifique moelle du truc, hein. Il devait être... Non, mais il devait être... Il est sorti de la chambre, il était rubicon, hein. Il devait être rouge, il devait transpirer, peut-être il a attrapé le colbac. Hein. Non mais vous rigolez, vous. Je vous raconte des trucs dramatiques, vous rigolez, c'est décourageant. Alors il lui a dit, est-ce que c'est pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi est-ce que tu m'as trompé? Ah, c'est embêtant d'être trompé, hein. Laban a dit, non mais chez nous, on n'a pas l'habitude de faire comme ça. C'est pas bien de donner d'abord la seconde avant l'aîné. Mais finissons la semaine des festivités qu'on est en train de faire. Et puis après, eh bien, on te donnera aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 autres années. Donc il a fait 2 mariages coup sur coup. Il a fini la semaine des festivités avec l'une, et je pense qu'ils devaient la regarder comme ça. Et puis après, ils ont fait sur le champ, dans la foulée, une autre semaine de mariage pour prendre la première. Mais quand quelqu'un a été roublard comme ça et qu'il a trompé tout le monde, le jour où il est trompé, il crie à l'injustice. C'est incroyable! Me tromper comme ça? Dans la famille même? Oh! Ah ben ça, si j'avais pu penser qu'une chose pareille puisse arriver. Si quelqu'un avait connu son histoire, il aurait dit, ouais, tiens, si on parlait de ton père un peu. Mais ça, il s'en était sûrement pas vanté, hein, pourquoi il était là, comment ça s'était passé. Et vous remarquez que la même histoire, et Laban ne connaissait sûrement pas l'histoire, mais Dieu l'a conduit à faire comme ça, pour que Jacob touche du doigt son problème. Pour que Jacob paye sa facture. Jacob avait trompé son père sur l'ordre de ses 2 fils en profitant de la nuit dans laquelle il était parce qu'il était aveugle. Et Laban l'a trompé, Jacob, sur l'ordre de ses 2 filles en profitant de la nuit pour lui refiler celle qui n'était pas désirée. C'est la même histoire. Ce que nous faisons nous revient. Nous ne pouvons pas, vous voyez, la grâce de Dieu n'a pas été inventée par Jésus-Christ. Dieu a toujours été un Dieu de grâce. Il est un Dieu de grâce dans l'éternité et il le sera toujours dans l'éternité. L'Évangile n'a pas créé la grâce. L'Évangile nous révèle comment la grâce de Dieu est devenue tellement miraculeuse qu'elle a créé un chemin pour nous mener au ciel. Mais Dieu, autant aujourd'hui qu'hier et que tout le temps, Dieu ne fera pas de la grâce une espèce de filtre sur les yeux de Dieu pour que Dieu ne soit plus très conscient. Je crois que certains chrétiens conçoivent la grâce comme ça. Oh, aujourd'hui, il y a la grâce. C'est comme s'il y avait une espèce de molleton devant les yeux de Dieu, là, et il ne voit plus très clair. Mais non, Dieu voit bien clair. Non, il voit bien, bien clair. Et la justice de Dieu va continuer d'être la justice de Dieu. Et quant à Léa, elle a cru peut-être qu'elle avait gagné aussi, parce qu'elle se disait... Maintenant, personne, maintenant que ma sœur qui était super bien va être mariée, moi je vais être toute seule. Et quand son père Laban lui a proposé, lui a dit, écoute, tu dis rien, on va faire un truc. Mais elle a cru qu'elle avait touché le jackpot. Elle dit, si je dis rien, il faut seulement que je me la ferme pendant toute la nuit. Bon, ça c'est difficile, hein, mais elle a pu. Et elle s'est dit, si je dis rien et qu'il ne me reconnaît pas, une seule nuit, eh bien, après ça, une fois que j'ai passé la nuit avec, je suis sa femme, il ne peut plus, c'est fini, j'ai gagné. Mais elle a gagné quoi? Si Jacob ne l'aimait pas beaucoup avant ça, j'aime mieux dire que juste après, il ne l'aimait plus du tout, hein? Non, attendez, elle est complice. Alors souvent, j'entends dire... Hein, oui, mais à l'époque, on faisait tout ce que les parents disaient. Elle était obligée, attends, obligée. Si ça avait été une fille qui n'a pas eu envie de rentrer dans la combine, elle aurait dit, je rentre pas dans cette combine. Quelqu'un qui aurait été intègre, dit, mais je couche pas avec un type juste pour devenir son mari, pour qu'après il me déteste toute ma vie. Mais non, je ne fais pas ça. Non, elle voulait bien le faire. Mais le texte dit plus tard qu'elle était haïe. Hein, souvent, dans beaucoup de traductions, dans ce grand, c'est dit... Il ne l'aimait pas. Mais littéralement, c'est « elle était haïe ». Elle était haïe. Mais moi, je comprends que naturellement, Jacob ne pouvait que la haïr. Une personne qui l'a truandée comme ça, pour devenir de force... Non, mais quand un gars se rencontre, qui s'est marié avec quelqu'un qui ne voulait pas et qui l'a truandé pour devenir de force et qui l'oblige à bosser encore 7 ans pour gagner sa vraie femme. Non, ça devait être entre eux, ça devait être chaud des fois. Hein. Il s'est fait rouler dans la farine. Douce farine, mais farine quand même. Il s'est fait avoir. La tromperie de Léa lui a coûté très cher. Léa a touché aussi le retour. Le retour, c'est que toute sa vie, elle a couru après l'espoir de gagner un jour l'amour de son mari. Et ça n'a jamais marché. C'est un truc qui a toujours foiré. En plus, maintenant que Jacob... J'allais dire sans le vouloir, parce qu'alors là, c'était, pour le coup, ce n'était pas lui qui l'avait voulu, il est devenu bigame. Mais de cette bigamie, c'est devenu un engrenage. Parce qu'après, avec le jeu des enfants, des concurrences, etc., il s'est retrouvé encore avec les concubines, les deux servantes de ces deux femmes. Finalement, il avait 4 femmes à la fin. Alors, je sais qu'il y a certains hommes qui, ils ne le diront pas parce qu'on est évangélique hein, quand même, mais quelques-uns, ils se disent... « Waouh ! 4 femmes !» Mais si vous avez une femme, bon, attendez, il faut que je fasse attention aux mots. Hein. Je n'ai pas dit que vous avez un problème, mais c'est une problématique. J'aime mieux appeler le mot problématique, c'est moins lourd. Et donc, mais parce qu'un mariage, un vrai mariage et une vraie relation... C'est quelque chose qui n'est pas toujours naturel. Il y a les temps où tout va bien, il y a les temps où on surfe sur la passion, mais il y a aussi des temps où on retombe sur le terre-à-terre. Et il faut construire, il faut régler ces problèmes. Et la polygamie montre que c'est impossible d'arriver à une vraie relation profonde, justement parce que la relation peut toujours, les difficultés peuvent être esquivées. dans la polygamie, nous on voyait ça en Afrique, alors que on peut toujours esquiver les problèmes. Au lieu d'être nez à nez avec son problème et de devoir le résoudre, l'homme le contourne et pendant un temps il laisse tomber, il va avec l'autre. Si bien que les relations ne deviennent jamais fortes, ne deviennent jamais vraies, ne deviennent jamais construites, ne relèvent pas les défis. Et finalement, du refus de répondre aux défis, de refus en refus, eh bien les relations s'appauvrissent de plus en plus. En plus, quand quelqu'un comme Jacob avait une deuxième femme, il n'avait pas seulement maintenant deux problématiques. Je n'ai pas dit problème, hein, vous avez compris. Hein, deux problématiques. Mais il y a aussi les problèmes qu'il y a entre elles deux. Donc il a son problème avec l'une, son problème avec l'autre, et le problème qu'elles ont entre les deux. Donc il en a trois. Alors qu'avant, il avait une chose à régler, sa relation. Maintenant, il a trois choses à régler. Mais quand il en a eu trois femmes, il avait maintenant six problèmes. Parce qu'il avait sa relation avec chacune, et il a les relations de chacune avec chacune des autres. Et quand il en a eu quatre, ben maintenant, il avait dix problèmes. Eh oui, c'est mathématique, il avait sa relation avec chacune, et les relations de chacune avec chacune des autres. Ça fait 10 exactement. Donc si quelqu'un... Non mais recalculez, prenez un stylo et comptez. Donc si jamais quelqu'un se regardait, évidemment d'une façon très discrète, avec un tout petit peu d'envie sur le cas de Jacob et de ses quatre femmes, dites-vous que si quelquefois votre problème, le seul, vous paraît un peu difficile à résoudre, imaginez si vous en aviez 10. Hein, ça vous guérit d'un coup. Hein. Non, Dieu a bien su faire. Dieu a bien su faire. Et ce pauvre, là, il nous fait, pour le coup, il nous fait un peu pitié. Ce pauvre Jacob a vraiment payé cher. Parce que tout ça, c'est les suites des conséquences de sa propre escroquerie. S'il s'est trouvé dans cette situation, c'est les conséquences indirectes de sa propre escroquerie. Il était chez la banque parce qu'il a truandé son papa. C'est parce qu'il est un escroc qui s'est fait escroquer de cette façon-là. C'est logique, c'est de la justice. Alors il nous fait pitié, mais quelque part c'est aussi logique. Un troisième point que j'aime bien dans l'histoire de Jacob. Est-ce qu'elle marche cette horloge, hein? Oui. Elle doit aller plus vite que normal. Hein? L'échelle de Jacob. On peut lire. Alors je reviens un tout petit peu en arrière. C'est quand il était en fuite. Hein? Et on trouve au chapitre 28. Les versets 10, voilà. Jacob partit, c'est au moment où il part, là il était encore célibataire. Il part de Beersheba et il s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Et il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touché au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici que l'Éternel se tenait au-dessus, en haut. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, oulala, Dieu est ici, hein? Et moi je ne savais pas, je dormais là et je ne savais pas que Dieu est là. Il a eu peur, il a dit que cet endroit est redoutable, mais ici c'est la maison de Dieu, c'est ici comme la porte du ciel. Alors il se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa comme un monument et il versa de l'huile sur son sommet, comme il n'avait rien pour offrir un sacrifice, peut-être juste un peu d'huile avec lui. Alors c'est l'offrande, la libation qu'il a faite. Et il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Encore un peu après, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Et cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai, dit-il à Dieu si généreusement, la dîme de tout ce que tu me donneras. Qu'est-ce que vous pensez de ce vœu? Mais on ressent vraiment le caractère du bonhomme, hein? Moi, je trouve ça stupéfiant. Il vient de se rendre compte que Dieu est là. Il vient de se rendre compte de la présence de Dieu. Il a été tout imprégné de l'onction de l'endroit, de la voix de Dieu, de cette promesse, etc. Et voilà qu'il marchande encore. Mais il est indécrottable. Il dit à Dieu, si tu fais ceci... D'ailleurs, Dieu venait déjà de le promettre. Dieu dit, mais tu as écouté ou tu n'écoutes pas? Je viens de te le dire, que je te garderai, que je te ramènerai. Mais non. Alors, oui, si Dieu fait ceci, s'il fait cela, qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, encore, il faudra aussi que ça. Et tu n'oublieras pas de... Alors, à ce moment-là, tu seras mon Dieu. Mais Dieu dit, mais que tu le veuilles ou non, je suis Dieu quand même, figure-toi. Mais c'est incroyable, il y a des gens qui font Dieu en fonction de ce que Dieu fait pour eux. Mais Dieu est, c'est tout. Dieu ne devient pas Dieu parce qu'il aurait réussi son examen de passage. Mais c'est incroyable ça, de faire passer à Dieu des examens de passage. Il faut que Dieu se justifie. Mais Dieu dit, mais je vais pas me justifier, je suis Dieu. Et alors, avec une immense générosité, Jacob dit, alors quand tu auras tout fait, toute ta part, je te donnerai la dîme. Mais Dieu dit, mais tu crois que je suis si pauvre que ça? C'est là qu'on voit que quand il y a un trait de caractère, quelque chose dans la personnalité qui a besoin d'être changé, eh bien, il faut quelque chose d'extrêmement fort pour que ça change. Même la bénédiction dans le sens des choses que Dieu réalise ne change pas une personne. Vous avez des gens qui peuvent avoir vécu des tas de choses extraordinaires, et curieusement, des fois, on découvre que dans leur personnalité, il reste des choses qui sont, en tout cas, pénibles. Au moins pénibles pour ceux qui sont autour d'eux. Et des fois, on se dit, mais avec tout ce qu'il a vécu avec Dieu, comment est-ce qu'il peut être encore aussi pénible? Comment est-ce qu'il peut être aussi pénible? Il n'a jamais changé. Et ce que j'aimerais dire ce soir, c'est que cet exemple de Jacob, c'est l'exemple de quelqu'un qui a eu énormément de peine à changer. Qui d'abord, je pense, pendant très longtemps, n'a jamais eu conscience qu'il devait changer. Il se trouvait bien. Tant qu'il a réussi, il se trouvait bien. Et il n'avait pas conscience qu'il était sur une mauvaise voie comme ça. Si nous donnons quelque chose à Dieu, est-ce que c'est parce que nous négocions? Est-ce que Dieu a besoin de quelque chose? Est-ce que Dieu doit se démontrer? Est-ce que Dieu doit nous faire des preuves? Mais tout ce que nous avons appartient à Dieu. Notre corps, notre âme, nos biens, tout appartient à Dieu. Mais quand on donne quelque chose à Dieu, on ne fait que lui rendre un tout petit peu de ce que lui nous a donné. Alors, dire à Dieu, je vais être très généreux avec toi, je te donne 10%. Oh, Dieu dit, oh ben compte bien, ouais. Oh ben compte, hein, surtout attention. Mais pas des fois un centime de trop. Un temps, ça me fait rire, j'étais dans une église et le trésorier n'était plus là, j'ai dû le remplacer au pied levé, j'ai fait la trésorerie. Mais des fois dans ma tête, je riais en relevant dans le tronc où je voyais des fois des chèques que des chrétiens avaient faits qui étaient avec la virgule et les centimes. Mais ça m'a toujours... Mais des fois, ça me faisait rire. Ça me faisait rire, quelle que soit la somme, c'est pas la question de la quantité. Ce que ça me montrait seulement, c'est que la personne avait bien calculé ce qu'elle devait à Dieu. 47,29 €. Dieu avait réussi son examen de passage. Oui, Dieu avait réussi son oral. Il avait tout bien réussi. Et la personne avait dit, donc, c'est ce que nous avions convenu, voici donc les 10%, tu as ton compte, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut manquer autant de sagesse envers Dieu? C'est dommage, C'est tellement dommage. Au moins enlevez. Si vous faites ça, au moins enlevez les centimes. Vous évitez de faire rire le comptable. Encore un dernier. Genèse 32. Ici, on saute carrément très vite 20 ans plus tard. Avec maintenant toute sa tribu, Jacob est devenu lui-même un patriarche. Quand il revient chez lui, il a maintenant 4 femmes et 11 loupiots qui courent autour d'eux. Il y en a toutes les tailles, tous les formats. Et donc, il sait que quand il va arriver, il va rencontrer son frère Ésaü. Et il se doute bien que malgré qu'il se soit passé 20 ans, son frère n'est sûrement pas tombé amnésique entre deux, hein, et qu'il va falloir le rencontrer. Et les quelques échos qu'il a eu de lui, c'est que si avant il était un homme des bois, maintenant il est un chef de guerre. Alors ça ne le rassure pas beaucoup. Et il a avec lui des centaines de types qui vivent comme lui, avec des armes, avec de la violence. Lui, c'est un berger. Ils sont 3-4 à avoir des bâtons, ils ne savent pas s'en servir. Donc, il n'a aucune chance. Alors, Jacob était terrorisé. Il a dit, comment ça va faire? Genèse 32. 32, verset 24, voilà, 31. Jacob demeura seul. Il avait envoyé devant lui tous les troupeaux. Il voulait peut-être méditer, chercher la face de Dieu. Alors un homme s'est présenté devant lui, qu'il n'avait jamais vu, il ne connaît pas. Et l'autre a engagé le combat, il fallait bien qu'il se défende. Alors ils ont commencé à se bagarrer, à lutter. Et il lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Il faut être motivé, hein. Et voyant qu'il ne pouvait pas le vaincre, hein, cet homme, cet inconnu, frappa Jacob à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait. Il lui a fait une luxation. Si vous avez déjà vu quelqu'un qui s'est luxé la hanche, c'est pas marrant, hein. Et Jacob, alors là, curieusement, Jacob dit au monsieur, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Ah, ça c'est quelque chose de spécial. Et il lui demande, quel est ton nom? Et Jacob a répondu, je m'appelle Jacob. Et il lui dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Mais cet inconnu répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. D'ailleurs, je ne comprends pas très bien comment il s'en est remis, parce qu'il a bien dû se remettre sa hanche lui-même. Ce n'est pas très facile. Et quelqu'un qui s'est fait une bonne luxation comme ça, et qui la remet de cette façon, non seulement il boitait le lendemain, mais je ne serais pas étonné qu'il ait clopiné un petit peu tout le restant de sa vie, hein? Parce que ça, ce n'est pas un truc très drôle, hein, avec les suivis médicaux qu'il a eu à cette époque-là. Pas simple, hein? Mais ce qui est changé, c'est que maintenant, Dieu lui a changé son nom. Et vous savez que dans la Bible, le nom, c'est ce qui représente pas simplement, c'est pas juste le vocable par lequel on appelle quelqu'un, mais ça désigne sa personnalité intérieure. Quand dans l'Ancien Testament, Dieu saisit quelqu'un, il lui change son nom. Abraham était devenu Abraham. Ok? Eh bien, Jacob est devenu Israël, un nom illustre qui a désigné après de tout temps les fils d'Israël, le peuple de Dieu. Vous voyez, nous avons tous dans nos vies, si pour ceux en tout cas, je veux dire, je parle à ceux qui veulent vraiment marcher avec Dieu, ceux qui veulent juste clopiner d'un peu loin, vous ne connaîtrez pas ça. Mais ceux qui veulent vraiment vous engager à fond avec Dieu, vous allez tous, un jour, vous connaissez un moment le torrent de Péniel. Un jour, vous arrivez à l'endroit où Dieu vous attend. À l'endroit où Dieu vous attend depuis toujours. Où Dieu dit maintenant, alors, voilà, allez, vas-y, fais voir ta force. Allez, fais voir ta force, démontre ta force. Vas-y, fais voir tout ce que tu sais faire. Et vous pouvez lutter, lutter, lutter. Et Dieu va juste vous faire voir que vous allez lutter jusqu'au bout de votre force. Et puis après, d'une chiquenaune, Dieu dit, maintenant, voilà. Maintenant, quand tu es déboîté, tu fais quoi? Et c'est le temps où Dieu, parce que Dieu cherche notre bien, Dieu cherche à un moment à briser ce fond de résistance, ce fond de personnalité qui ne veut pas céder, ce fond de personnalité qui veut toujours quand même faire les choses à la place de Dieu, qui veut décider avant Dieu, qui veut diriger Dieu, qui veut manipuler Dieu, qui cherche son intérêt. Toutes ces choses négatives qui sont le fond de nos personnalités, pour chacun d'entre nous de façon différente. Mais Dieu nous amène à un moment où on se retrouve seul devant Dieu, où tous les appuis ont disparu, où toute aide humaine n'existe plus, où notre propre force est finie, où on est à fond de cale, où là, tout d'un coup, par terre. Et là, Jacob, à ce moment-là, a su trouver vraiment, dans sa foi qui était réelle, il a su trouver vraiment le courage de crier à Dieu. Il s'est comporté, c'est pour ça que Dieu lui dit qu'il a été vainqueur. Ce n'est pas lui qui avait gagné ce combat au sens physique du terme, mais moralement, spirituellement, il avait gagné quelque chose. Il a dit, je veux être béni. Il était par terre avec la hanche déboîtée et il a parlé comme s'il pouvait encore exiger quelque chose, comme si la bénédiction était la seule chose qui lui importait. Il a dit, je ne te laisserai pas aller. L'ange aurait pu rigoler, il aurait dit, avec quoi tu vas me retenir? Explique-moi comment tu me retiens. Mais Dieu n'a pas rigolé. Il a dit, Jacob a dit, je ne te laisserai pas aller que tu m'aies béni. Dans cet instant, la seule chose qu'il désirait, c'était plus seulement qu'une seule chose, être béni de Dieu. Béni de Dieu. Il n'a plus calculé, il n'a plus marchandé, il n'a plus réclamé que Dieu ceci, que Dieu cela pour lui donner, au lieu de 10%, je t'en donnerai 15. Il a dit, je veux juste être béni. Ces temps-là sont des temps difficiles. Et c'est des temps qui sont des temps de charnière dans la vie. Des fois, c'est des temps un peu de quitte ou double. C'est des temps où on peut passer à côté du vrai enjeu, où on peut rentrer vraiment dans le vrai appel, la vraie direction que Dieu veut donner à notre vie. J'aime beaucoup un verset dans le psaume, si on peut nous lire ça, mettre ça dans le psaume 51, verset 19, un verset qui est quelquefois un peu énigmatique pour certaines personnes. Psaume, voilà, 51, 19, voilà, il va arriver. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Tant que quelqu'un n'est pas rentré vraiment face à la signification spirituelle de ce verset, il reste un mystère. C'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Il n'est pas question ici d'esprit brisé par le malheur, par la détresse, quelqu'un qui a eu un gros pépin, il a eu des tas de problèmes, alors il est plein de chagrin. Non, ce n'est pas ça. C'est un sacrifice qui est agréable à Dieu. C'est le sacrifice que quelqu'un fait de lui-même. Quand son esprit, comme la vie de Jacob, les résistances de Jacob, la personnalité de Jacob est arrivée au point où il a été cassé. Mais parce qu'il a accepté de maintenant tout remettre à Dieu, alors au lieu d'être cassé définitivement, il est devenu la vraie personne que Dieu attendait depuis toujours. Vous avez des gens, des fois nous voyons ça quelquefois, j'allais dire dans le suivi pastoral, des personnes qui ont des capacités pour servir Dieu, des dons, des talents, du savoir-faire, des gens qui sont doués quelquefois. Ils sont doués, mais quelquefois on sait qu'ils manquent, qu'ils ne sont encore pas passés à ce torrent de Péniel. C'est encore, ça sent tellement encore l'humain, ça sent tellement encore la force propre, ça sent tellement encore la volonté, ça sent encore tellement une petite racine ici d'ambition, une petite volonté de s'imposer, un truc pour... Et ça manque le cœur brisé. Le sacrifice n'a pas été consommé. Le sacrifice n'est pas là. Alors on peut offrir d'autres choses à Dieu. De l'engagement, du temps, des tas de choses. Mais Dieu dit ce que j'aime, c'est un cœur brisé. L'Éternel ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Jacob est devenu, à ce moment-là, je crois, une autre personne. le trompeur, le rusé, le manipulateur, le petit escroc, là, est devenu quelqu'un qui avait envie, besoin d'être béni par Dieu. N'esquivons pas le torrent de Péniel. N'esquivons pas le temps où Dieu nous met en face de nous. Ne cherchons plus d'autres aides. Ne cherchons plus des alternatives, des échappatoires. Laissons Dieu nous mettre en face de nous. Laissons-le briser ce qui empêche la vraie éclosion du vrai, de la vraie personnalité que Dieu fait de nous. Frères et sœurs, le livre d'Osée parle encore de ce passage dans Osée 12. Je finis juste avec ce verset, Osée 12, les versets 4 et 5. Voilà, Osée 12, voilà, dans le sein maternel, hop là, ça va revenir. Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Bethel et c'est là que Dieu nous a parlé. Il a lutté avec l'ange et il fut vainqueur. Nous allons rencontrer Dieu, mais pas seulement quand nous arriverons au ciel. Aujourd'hui, dans notre vie, Dieu agit. Il y a des endroits où nous ne voyons qu'un caillou et où Dieu dit « mais je suis là ». Jacob était étonné, il dit « mais jusque-là, moi, j'ai dormi là, j'ai fait de cette pierre mon oreiller, mais je ne savais pas que Dieu est là ». Oui, mais parce que Dieu est partout. Dieu est là dans cette salle, Dieu est là dans ta voiture, Dieu est là chez toi, Dieu est là dans ton travail, Dieu est là partout où tu vas, dans ta famille, chez les tiens. Et Dieu parle. Et tout d'un coup, Dieu dit « mais je suis là ». L'échelle de Jacob, c'est Jésus lui-même. Jésus a dit dans Jean 1,51, il a dit « désormais vous verrez le Fils de l'homme, les anges de Dieu, monter et descendre sur le Fils de l'homme ». Jésus a dit, en d'autres termes, il a dit « je suis l'échelle de Jacob ». C'est pourquoi nous avons confiance en Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait descendre l'échelle. Nous ne l'avons pas fabriqué. C'est plus visible dans le texte original. Parce qu'il est écrit, cette échelle était vers la terre. Parce qu'elle venait du ciel. Maintenant, cette échelle est là. On peut monter au ciel. On peut voir Dieu. Mais nous n'allons pas monter. Nous ne désirons pas, n'est-ce pas, y monter avec nos faillites, avec nos calculs, avec nos négociations. Nous désirons monter dans la simplicité de cœurs qui ont été épurés, purifiés, débarrassés des faux fardeaux. Que Dieu nous aide à ce que ce changement de nos vies soit un changement total. Que nous ne soyons pas seulement devenus des chrétiens évangéliques pour que Dieu nous enlève ce qui nous gênait, mais que nous puissions changer ce qui gêne Dieu. Que nous laissions Dieu changer ce qui n'est pas conforme à sa nature. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier, Seigneur, pour que tu nous apportes, Seigneur, que toi-même tu nous mettes au bon endroit. Seigneur, même s'il nous semble que cette confrontation est redoutable, même si nous ne souhaitons pas rencontrer celui qui lutterait contre nous toute la nuit, pour que nous finissions brisés. Mais toutefois, Seigneur, nous voulons te dire ce soir, et je vous invite à le dire avec moi, Seigneur, notre Dieu, ce que nous désirons par-dessus tout, c'est seulement de vivre dans ta bénédiction. Nous ne voulons plus calculer, nous ne voulons pas négocier, nous ne voulons pas parlementer, nous ne voulons pas te regarder comme seulement celui qui agit pour faire ceci ou cela en notre faveur. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, t'aimer simplement. Ce qui en nous est une résistance. Seigneur, nous t'invitons nous-mêmes à nous amener à l'endroit où cette résistance sera brisée. Nous voulons, Seigneur, pouvoir t'offrir un vrai sacrifice qui te soit agréable. Le sacrifice d'un cœur brisé, contrit, où il ne reste plus de ressort propre, où ta vie puisse couler librement. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, Seigneur Dieu, nous t'en prions, Seigneur, change nos cœurs. Change mon cœur, Seigneur. Dites-lui, Seigneur, dites-lui maintenant. Dites-lui, Seigneur, change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Seigneur Dieu, change mon cœur. Change mon cœur. Change mon cœur, Seigneur. Brise la résistance. Brise les forces propres. Brise ma confiance humaine. Brise mon ambition. Brise tout ça, Seigneur. Seigneur, je t'en donne le droit. Je t'invite à le faire, Seigneur. En tremblant, mais je t'invite à le faire. Seigneur, nous voulons être vrai devant toi. Merci Seigneur. Je demanderai à Samuel s'il veut prendre la suite.
Gardons simplement encore un instant nos yeux fermés. Nous allons sur ces paroles conclure. Mais s'il y avait une seule personne ici présente ce soir, qui disent au-dedans d'elle, mais moi je veux changer. Je me reconnais sous certains angles dans ce que j'ai entendu. Il y a certains aspects, n'est pas forcément, bien sûr, identique à Jacob dans tout ce qu'il a fait. Il y a tellement de domaines dans nos vies où nous aussi, nous avons bradé les bénédictions de Dieu. Nous sommes retournés parfois à ceux dont il nous avait si merveilleusement libérés. Et puis maintenant, il y a une lutte, il y a un combat pour regagner le terrain que nous n'avons même pas perdu, que nous avons donné, cédé, volontairement. C'est peut-être dans ce domaine-là ce soir qu'il vous faut dire, Seigneur, pardonne-moi. C'est peut-être dans l'intégrité, parce que le problème de Jacob qui a été si bien présenté par Jean-Marie, c'est un problème d'intégrité. Vous savez, le livre des Proverbes dit au chapitre 11, l'intégrité des hommes droits les conduit. C'est-à-dire que votre manière de vivre, de vous diriger dans la vie, c'est cette intégrité que vous recevez lorsque vous venez pleinement à Dieu. Cette intégrité dans votre relation avec les autres, cette intégrité dans votre manière de faire les affaires, cette intégrité dans le travail, etc. Et puis, peut-être qu'il y a ce troisième domaine duquel était parlé tout à l'heure. On négocie avec Dieu, on a toujours l'impression de lui donner trop. C'est de notre temps, c'est de nos moyens, c'est de nos talents. On est toujours en train de calculer, en train de négocier. C'est peut-être là que le Seigneur vous appelle. Pour vous amener ce soir à avoir ce cœur volontairement brisé. Qui dit je capitule. Seigneur, simplement ta bénédiction me suffira. Vous qui savez que le Seigneur vous a parlé, priez-la à votre place. Simplement. Vous qui peut-être êtes là pour la première fois, vous qui ne connaissez pas encore Dieu, dans cette relation personnelle que l'on peut avoir avec lui, dites-lui simplement, je veux t'ouvrir mon cœur. S'il y a une seule personne ce soir qui dit, mais moi je veux te connaître dans cette relation personnelle. Pendant que nos yeux sont fermés, je voudrais juste prier pour vous. Levez votre main, puis baissez-la et je prierai. Oui, vous pouvez baisser votre main. Oui, 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 vous pouvez baisser votre main. Oui, baissez votre main. Oui, que le Seigneur vous bénisse. Je ne veux pas demander ce soir à ce que l'on s'avance. Oui, le Seigneur vous voit. Je ne veux pas demander, le temps est déjà passé, mais là, votre place où vous êtes. Dites-lui simplement, et je vais prier pour vous. Seigneur, je veux te connaître. Il a fallu que Jacob apprenne à connaître Dieu. Je veux te connaître. Je veux avoir cette relation personnelle avec toi. Je veux vraiment ce soir te dire, je te donne tout le droit sur ma vie. Je ne négocie plus rien sur ma vie. Je te la donne. Je te la donne. Je ne te donne pas un peu de ma vie. Ou un peu de mon... Seigneur, je te la donne entièrement. Père, tu vois les bien-aimés qui ont levé leurs mains ce soir. Non pas devant nous, mais devant toi. Et qui simplement te disent ce soir, je te donne ma vie. Je te la donne. Tu vois, c'est derrière chaque main levée, il y a toute une vie, il y a tout un vécu, il y a pour certains des joies, pour d'autres des souffrances, il y a tous ceux qui derrière cette main levée disent, mais ce qui a été dit c'est vrai, j'ai été rattrapé moi aussi par mes roublardises, mais ce soir je te demande pardon. Je te demande pardon. Je capitule. Je ne désire qu'une chose. Oh Dieu, bénis-moi. Et la plus grande bénédiction que vous pouvez avoir, c'est quand Christ vient dans votre vie. C'est la plus grande chose qui puisse se passer dans la vie d'un homme ou d'une femme. Seigneur, ce soir, oh viens. Toi qui es venu non pour juger, non pour condamner, mais ta parole dit, tu es venu pour sauver. Viens, sauve-les parfaitement. Qu'il repart de ce lieu léger, heureux, non plus condamné, léger. À toi soit l'honneur, la louange et la gloire. Levons-nous ensemble et terminons simplement en chantant « Change mon cœur ». Père, je t'apporte les requêtes de prière qui ont été déposées ici, mais pour lesquelles il sera encore prié demain. Je te les remets, je t'apporte en particulier Arlinda qui a été opérée au niveau de son cerveau. Cette jeune fille de 18 ans, Père, je te la remets en particulier, ainsi que toutes les personnes qui passent par des temps difficiles. Je veux également ce soir ne pas terminer sans prier pour tous ces hommes, ces femmes qui passent par l'épreuve au Japon. Seigneur, dont les vies ont été plus que bousculées, c'est bouleversé, dont des familles ont été littéralement éradiquées. Père, je te prie pour tous ces hommes et ces femmes et que tout ce qui se passe là amène l'homme à réfléchir. Seigneur, non pas simplement au Japon, mais que l'humanité entière puisse réaliser que finalement, nous ne sommes que des fétus de paille. Que des fétus de paille. Nous nous dressons fièrement. Parfois, nous sommes arrogants contre l'Éternel du haut de notre orgueil. Mais il suffit que la terre tremble un peu, le vent souffle et l'eau s'élève et nous ne sommes plus. Seigneur, apprends-nous à être humbles. Apprends-nous à être humbles. Apprends-nous à être reconnaissants pour tout ce que nous avons. Et je te prie de venir au secours de ceux qui souffrent, des croyants au Japon, de celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, viens à leur secours. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi, et purifie-moi, change mon cœur,
change mon cœur.